Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola.
Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner la façon dont la figuration analogiste rend visible des réseaux en distinguant trois modalités principales. La figuration que j'ai appelée par hypostase, dans laquelle des singularités forment un ensemble car elles sont hypostasiées dans un principe de totalisation personnifié tout en gardant évidemment des caractères distinctifs. Et j'avais illustré cette modalité avec le masque de Colas Anilla et le rituel qui l'accompagne, bien sûr, assez lent, et aussi par quelques figurations de la Sainte Trinité. J'avais appelé la deuxième modalité la figuration par agrégation fonctionnelle, correspondant à une situation dans laquelle une collection d'éléments hétérogènes est assemblée en vue de contribuer à une fonction commune, généralement thérapeutique, apotropaïque, etc. Et j'avais commencé à illustrer cette modalité avec l'exemple des messas ou des tables rituelles, si communes parmi les populations autochtones d'Amérique latine. J'avais en particulier montré, à propos des messas mésoaméricaines, que celles-ci constituent des dispositifs de miniaturisation du cosmos qui, du fait de la réduction d'échelle, pouvaient condenser des réseaux de relations manipulables entre un grand nombre d'existants. C'est sur ces relations que travaillent les officiants de ces messas rituels. Les messas des Chipayas de Bolivie, que j'avais ensuite brièvement présenté, possèdent aussi ce caractère de branchement ou de prise multiple entre les humains, les divinités et les différents secteurs du cosmos, bien qu'elles soient, dans le cas des Chipayas, presque complètement dépourvues de dimensions iconiques. Je voudrais à présent examiner un dernier type de messa, en usage dans des populations qui ne se réclament pas d'une tradition indigène, avant de passer à l'examen de la troisième modalité de figuration des réseaux, celle que j'ai appelée par détermination expressive. J'aborderai ensuite une autre dimension fondamentale de la figuration analogiste, à savoir la mise en évidence des correspondances entre macrocosme et microcosme, mais c'est déjà un thème qui a été un peu évoqué dans le cadre, par exemple, de l'examen des messas. Donc, les messas dont je vais parler maintenant ne sont pas des messas spécifiquement indigènes, et au fond, loin d'être cantonné aux communautés indigènes, l'utilisation des messas est fort commune parmi les populations métissées de la campagne et des villes en Amérique latine, parce que l'univers ontologique ou symbolique, si vous voulez, syncrétique de ces populations est au fond fortement marqué par l'influence des ontologies analogistes autochtones. C'est le cas, par exemple, dans la partie nord-ouest du Pérou, où l'on connaît assez bien ce dispositif des messas grâce à une monographie de Douglas Sharon, le même Douglas Sharon que j'avais évoqué à propos de son travail de synthèse sur les messas mésoaméricaines, et qui a travaillé sur ce qu'il appelle les chamans, les officiants rituels, disons, et qui a publié un livre sous le titre « Wizards of the Four Winds » qui explore ce type de messas. Alors, dans cette région du nord-ouest du Pérou, sur la côte et dans les Andes, des guérisseurs, qu'on appelle traditionnellement dans toute cette région d'Amérique du Sud et d'ailleurs aussi en Mésoamérique des curanderos, des gens qui soignent, utilisent des sortes d'autels thérapeutiques pour soigner un grand nombre d'infortunes de l'âme et du corps. On en a des descriptions dans les villes aussi, on en a des descriptions à Lima, on en a des bonnes descriptions à Mexico. Et comme c'est le cas dans l'étiologie populaire latino-américaine, ces maux sont causés par un ensemble de principes pathogènes liés à des lieux ou à des intentions malignes. Ce sont des émanations néfastes, qu'on appelle aires ou vientos, des souffles, qui procèdent de certains lieux chargés de pouvoir, des grottes, des sources, des lacs, des rochers, des lieux qui sont assez souvent liminaires, qui procèdent aussi des esprits d'animaux, de plantes ou d'autochtones du temps jadis investis d'une puissance particulière, qui procèdent aussi des âmes errantes, incapables de trouver le repos suite à une malmort, qui procèdent des sorts jetés par des sorciers, mais aussi qui procèdent des pertes de l'âme dues au susto, c'est-à-dire une sorte de frayeur subite qui atteint en particulier les enfants, ou qui procèdent des tracas divers qui sont le produit du mauvais œil engendré par les envieux. Pour contrer tous ces effets négatifs, le curandero met en branle des pouvoirs qu'il a acquis au fil du temps auprès d'entités diverses avec lesquelles il a passé des sortes de pactes magiques qui se matérialisent chacun dans un des objets qu'il va disposer sur sa mesa. Alors celle-ci est formée, comme c'est toujours le cas, d'une pièce de tissu, d'une natte, parfois d'une planche, sur laquelle sont installés, dans un arrangement très précis, jusqu'à une centaine d'objets différents. On a un bon exemple ici, je crois que c'est une photo que j'avais déjà présentée, elle a la réputation d'être l'une des plus importantes, peut-être même la plus importante de cette région, en tout cas par sa dimension. Et en effet, là où les mesas des Indiens des Andes et du Mexique, qu'on a eu l'occasion de voir auparavant, ne comptent guère plus d'une trentaine d'ingrédients, en général, les mesas des curanderos présentent un assortiment proprement stupéfiant d'objets disparates qui reflètent tout à la fois la variété des traditions historiques et culturelles dans lesquelles les curanderos puisent et les particularités de leur itinéraire personnel. Étalé à la vue de tous, au fond, c'est la diversité des rencontres et des contrats passés par un individu singulier que cette installation révèle. Outre des éléments animaux et végétaux, des confiseries, des boissons, des préparations alimentaires, on trouve un invraisemblable bric-à-brac d'images saintes et profanes, de statuettes évoquant des personnages ou des divinités précolombiennes, des fioles contenant des préparations diverses, des livres contemporains de magie noire qui ont un grand succès dans les marchés populaires, des varas, c'est-à-dire ce sont ces cannes sculptées qu'on voit derrière, qui sont traditionnellement dans les Andes les signes de l'autorité politique et religieuse, mais aussi des sabres, des épées, des bijoux de fantaisie, des petites boîtes, etc., etc. La logique analogiste règne ici sans partage. La ressemblance de tel ou tel objet naturel avec une partie du corps détermine son pouvoir curatif, selon une logique classique qu'on connaît bien en Europe sous le nom de la théorie des signatures. Certaines substances ont une efficacité intrinsèque liée à leur nature. Par exemple, on dit que la magnétite a un pouvoir d'attraction, parce qu'elle attire le fer, bien sûr, tandis que le silex contient le feu parce qu'il fait des étincelles, etc. Certains objets sont associés au chaud et d'autres au froid. Ils sont donc employés selon les besoins pour réchauffer ou pour refroidir le patient. La provenance de ces objets renvoie à des qualités propres à un lieu ou à un individu. Bref, chaque objet, très nettement individualisé, de par sa forme, de par sa matière, de par son origine, induit une correspondance réputée efficace entre le mal ou le symptôme et les dispositions curatives qu'il possède. Alors, le rôle du curandero, il est d'activer, au moyen de formules rituelles et de chants qui sont rythmés par des hochets, les pouvoirs des objets qui composent sa messa. Et la séance de cure consiste pour le curandero, qui est le plus souvent sous l'emprise d'un psychotrope, à parcourir sa messa par la pensée, de la gauche à la droite, c'est-à-dire de l'espace pathogène à l'espace curatif, en réveillant par son regard et par des formules rituelles la capacité d'action intentionnelle propre à chacun des objets qui composent cette messa et en s'efforçant de la contrôler pour le bien du patient. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de configuration thérapeutique, chaque curandero a son modus operandi spécifique. Par exemple, certains se déplacent par la pensée dans la messa comme dans un territoire biographique où chaque rencontre avec un objet stimule le pouvoir de l'entité à laquelle cet objet est associé. D'autres recherchent plutôt des coactivations d'objets dont les énergies conjuguées peuvent être canalisées et mises à profit. Dans tous les cas, il semble que la grande quantité d'objets, leur hétérogénéité extrême, soient des conditions constitutives de l'efficacité thérapeutique. La messa, c'est à la fois un tableau saturé de qualités imagées et un agrégat d'intentionnalité incorporée dans des objets dont le thérapeute joue comme d'un cosmos miniature, activant tel champ, neutralisant tel autre, induisant tel objet à se coaliser avec tel autre pour une action commune. Comme le dit un curandero, des objets se mettent à travailler ensemble, trabajan juntos. Faisons ainsi écho à une remarque de Nathan Wachtel que j'avais rapportée à propos des Mesa Chipaya lors de la dernière leçon, lorsqu'il écrit que la fonction des rituels Chipaya est de faire dialoguer les divinités entre elles afin que l'univers soit en harmonie avec lui-même. Le travail du rituel, ça consiste donc à faire rentrer en résonance des objets de nature différente de façon à coaliser leurs forces en vertu d'un objectif commun. Une caractéristique de toutes les messas d'Amérique latine est que chacune de leurs composantes, prise isolément, est sans doute investie d'un symbolisme et d'une agence propre, mais que cette composante n'a de sens et d'efficacité qu'en vertu des branchements avec ses voisines et avec le monde qu'un spécialiste rituel est à même d'opérer. Or, du fait de la surabondance d'éléments qui définit les mesas des curanderos péruviens, cette mise en réseau d'objets hétéroclites concourant à une fonction commune devient particulièrement manifeste. Dans l'image d'une messa, car une messa c'est bien une image, ce qui est donné à voir, c'est un assemblage nettement circonscrit dans un cadre, ici sur une natte, non de chacun des ingrédients dont il est fait. C'est ça qu'on leur donne à voir, c'est l'ensemble, et non pas telle ou telle pièce juxtaposée à telle ou telle pièce. L'image, donc, n'a pas d'autre sujet que l'agrégation de singularité qu'elle rend opératoire. Cette façon d'inscrire un réseau d'objets disparates dans un espace bien délimité, où ils sont perçus comme des parties d'un ensemble fonctionnel ou ontologique, n'est évidemment pas propre aux messas. On le retrouve dans beaucoup de dispositions d'hôtels, et notamment en Asie du Sud-Est. Mais on la trouve aussi dans nombre d'installations magiques où la diversité même des éléments assure une efficacité prophylactique ou thérapeutique provenant finalement de ce que toutes les éventualités sont prévues par le dispositif du fait de la grande diversité des objets présents. Ainsi, par exemple, en va-t-il des amulettes et des talismans, chacun plus particulièrement destiné à prévenir un danger ou à favoriser un dessein, mais qui sont généralement utilisés en addition, parce que leur addition, voire leur accumulation, finit par constituer comme une sorte d'enveloppe protectrice polyvalente pour celui qui l'arbore. Il est rare qu'on porte un seul gris-gris, en général, on en porte tout un costume, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, les tuniques de chasseurs mandés de Côte d'Ivoire en sont une bonne illustration. J'en ai présenté une dans d'exposition du Quai Branly. Là, on voit que la surabondance et le caractère hétéroclite des pièces qui sont cousues sur le tissu, ce sont des gris-gris en coton rouge, en poils d'animaux, en cornes d'antilope, en coris, qui, évidemment, au fil du temps, finissent par perdre un peu leur caractère distinctif. Tout cela fait une sorte d'armure magique dont l'efficacité propre vient de l'assemblage en réseau des composantes. Dernier type dernière modalité de mise en réseau, c'est celle que j'ai appelée par la détermination expressive. Alors, je pensais ici à un concept philosophique classique qui est celui de la causalité expressive, qui était en particulier bien connu chez Leibniz. Dans cette modalité de mise en réseau, des singularités forment un ensemble coordonné, car chacune de ces singularités constitue un aspect partiel ou un point de vue ou une expression d'un tout abstrait qui, d'une certaine façon, en tout cas conceptuellement, préexiste à chacune de ces modalités. Alors, par contraste avec le masque des démons du Sri Lanka, dans lequel le principe de totalisation est personnifié, à la différence de la Sainte Trinité, dont l'ensemble n'est pas conceptuellement séparable des parties qui le composent, le tout, dans le cas de la figuration par détermination expressive, le tout est supérieur et dans une certaine mesure transcendant à la somme des parties. Alors ça peut être une totalité très englobante, un système socio-cosmique par exemple, au sens le plus général qu'on peut donner à ce terme, ou bien une institution agissant en qualité de personne morale, comme une caste, un lignage ou une nation, c'est-à-dire véritablement une personne morale dont l'identité est différente de celle de la somme des parties qui la composent. Mais dans tous les cas, les éléments qui la composent ne prennent ordre et sens vis-à-vis les uns des autres qu'en tant qu'ils sont des parties de la structure générale qui les détermine. Et c'est pour ça que je parle de détermination expressive. Alors, une manière efficace de figurer cela est de donner à l'ensemble des images un style reconnaissable qui fait percevoir un air de famille, malgré leurs différences, et qui les objective comme autant de variations d'un modèle unitaire. J'en avais donné un exemple, non pas pour illustrer cette propriété, mais en parlant d'une autre question, à propos des autels des ancêtres dans les aires mandées et voltaïques en Afrique de l'Ouest. Dans les autels des ancêtres de cette région, des sculptures de bois figurent des hommes ou des femmes adultes, debout ou assis dans une pose généralement hiératique. Ce sont des images archétypales ou archétypiques d'individus caractérisés par un stade de la vie et par un statut reconnaissable. Chez les lobbies, pour lesquels on a beaucoup de sculptures et des bonnes descriptions de ces autels, dans une pièce qui est appelée la chambre des puissances, le maître de maison installe l'effigie d'un ancêtre maternel, précisément identifié, dont il partage certaines qualités. Et puis, il garnit peu à peu cet endroit d'objets qui sont liés à son histoire personnelle. Ce sont des effigies d'ancêtres et des figurines exécutées à l'occasion d'un incident l'ayant affecté, ce qui fait que la pièce finit par apparaître comme une vaste fresque biographique où l'effigie de l'ancêtre tutélaire veille sur une congrégation de statues de bois et de terre. Voilà une image, par exemple. Alors, donc les statues sont dans un style reconnaissable, mais elles portent certains attributs qui les identifient personnellement comme tel ou tel ancêtre. Voilà une autre image. Or, ces statues sont le double de l'ancêtre et de son descendant, qui lui rend un culte. Elles sont donc une bonne expression du lignage. Pour que la configuration qui les lie, c'est-à-dire l'ancêtre et son descendant, soit activée, elle doit s'incarner dans une figuration reconnaissable par l'ancêtre, car élaborée dans un style identique par les sculpteurs qui travaillent pour le clan maternel. Et c'est seulement si les ancêtres se reconnaissent dans leurs effigies qu'ils vont venir habiter ces niches iconiques, peut-on dire. Celles-ci sont donc ces statues, à la fois des singularités, le double d'un aïeul maternel incarnant le destin de son descendant, et des archétypes à l'image desquels les vivants doivent tenter de se conformer. Mais je voudrais examiner plus en détail une autre forme de figuration expressive qui est celle des poupées Katsinam. Les poupées Katsinam sont bien connues et elles offrent un bon exemple de ce jeu subtil qui consiste à épuiser toutes les figures de la diversité à l'intérieur d'un genre néanmoins identifiable. Les Katsinam, c'est la forme plurielle de Katsina, ce sont des esprits, ou Katsina, comme on le dit aussi en français, sont des esprits dont chacun représente une particularité, une qualité ou une facette du cosmos des Hopis de l'Arizona. Ce sont des messagers des divinités, des ancêtres et des compagnons des ancêtres. Ce sont les esprits personnifiés d'animaux, de plantes, d'artefacts. Ce sont, autrement dit, des expressions singularisées du panthéon et des éléments physiques de l'univers. Tous les ans, de la fin du mois de juillet, de la fin du mois de décembre, à la fin du mois de juillet, les Katsinam séjournent dans les villages situés sur les trois messas qui constituent le territoire Hopi, avant de repartir à la fin du mois de juillet, donc au début du mois d'août, pour les six mois qui suivent, vers les pics de San Francisco, qui sont la porte d'entrée du monde souterrain où ils résident en famille, tout comme les Hopis. Alors les Katsinam sont personnifiés par des danseurs masqués qui les présentifient dans un cycle cérémoniel très long, très complexe, et qui les représentent donc en portant des masques et des costumes et des attributs qui sont spécifiques à chaque classe d'esprit. Le fait de se vêtir et de se masquer comme un Katsina suffit à le rendre actif et à l'objectiver dans le village. Alors, il y a près de... Les nombres varient, hein, mais on considère qu'il y a autour de 400 Katsinam différents. Et comme le cosmos Hopi n'est pas statique, certains Katsinam disparaissent, en tout cas ne sont plus personnifiés lorsque les clans auxquels ils sont attachés s'éteignent, tandis que d'autres sont continuellement introduits de l'extérieur, notamment depuis les voisins amérindiens des Hopis, comme les Zunis ou les Navajos. Alors, voilà quelques exemples. Ça, c'est les Katsinam tels qu'ils sont figurés par les danseurs. Vous voyez aussi derrière des Katsinam qui se reposent, ce sont des Katsinam femmes, ici. Ça, c'est un... C'est un danseur Katsina aussi. Alors, on voit, le mode classique, c'est de défiler par des longues lignes extrêmement coordonnées, d'ailleurs, très impressionnantes, hein, dans la mesure où chacun bouge. C'est comme dans des numéros aussi bien réglés que dans le music hall, c'est que chacun bouge exactement le pied ou le bras, etc., d'un même mouvement. Quelquefois, ce sont des interactions individuels, entre, ici ce sont des Katsinam Koyemsi, c'est-à-dire des clowns, des têtes debout, hein, ces deux-là, et puis ce grand Katsina qui est un Katsina Shalako ou Salako. Alors, les Katsinam sont personnifiés par des danseurs, mais ils sont aussi traditionnellement figurés sous la forme de poupées, des poupées qui sont appelées Ki-Hu, et qui sont sculptés dans une racine de cottonwood, qui est le peuplier américain. Les poupées ont tous les attributs des danseurs, notamment tous les détails généralement dispersés sur la tête et sur le costume qui permettent de les identifier. Par exemple, là, on a deux poupées. On a des poupées Tihou. Donc, vous voyez, ici, c'est le tête debout, le Koyemsi. Et à côté, c'est le Katsina Chalako, sous une variante un peu différente de celui qu'on a vu précisément. Alors, les poupées, elles sont destinées aux enfants, généralement aux filles, mais pas exclusivement. Et ce ne sont ni des jouets à proprement parler, on ne joue pas à la dinette avec les tihou, ni des effigies religieuses à qui un culte serait rendu. On en fait cadeau aux enfants, c'est généralement un danseur masqué qui va le donner à un enfant, lors des cérémonies d'adieu, au Katsinam, en juillet ou en août. Et comme le note Fuchs, Jess Walter Fuchs, qui est l'un des premiers ethnographes des Hopi, et celui qui a particulièrement bien décrit le système des Katsinam, il n'est pas rare, je le cite, de voir des petites filles, après la distribution, porter des poupées sur leur dos, emmaillotées dans une couverture, de la même façon que les femmes adultes portent les bébés. Les poupées, en général, sont dans les maisons et elles sont suspendues aux poutres ou aux murs de la maison. Et au fond, elles permettent aux parents ou aux grands-parents d'illustrer de façon concrète, en désignant telle ou telle caractéristique de la poupée, les activités et les attributs des Katsinam lorsqu'ils racontent aux enfants les récits étiologiques qui les concernent et qui leur détaillent les rites et les cérémonies dans lesquelles ils interviennent. Ce sont donc des sortes d'aide-mémoire et en même temps des objets qui servent à ce que nous appellerions ici des leçons de choses, un peu comme il y avait jadis, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dans les écoles primaires, des objets, des pierres, des plantes et des choses comme ça qui permettaient d'identifier tel ou tel éléments de l'environnement dont la connaissance était réputée utile. Alors, pourquoi est-ce que je parle de leçons de choses ? Parce qu'il s'agit, à travers ces objets, de décrire la diversité du cosmos Hopi. En effet, à l'exception de certains esprits, comme les esprits des vents méchants et les esprits de toutes les directions, tous les types d'humains et de non-humains, tous les éléments matériels et immatériels du monde, bref, tous les existants, sont susceptibles d'être représentés comme Katsinam. Alors, les Katsinam sont plutôt bienveillants à l'égard des humains, d'ailleurs, bien qu'ils puissent à l'occasion être à la source de maladies. Je vais donner quelques exemples de ce qui peut être associé à des Katsinam. Parmi les animaux, il y en a une quarantaine. Ça va du loup, de la mouche, le corbeau, les cervidés, les blaireaux, les chouettes, les coucous, le cheval, le faucon, la moufette, etc. etc. Parmi les éléments, l'eau, le feu, la cendre, alors c'est plus que les éléments au sens d'une théorie analogiste des éléments, puisqu'il y a aussi des éléments de l'environnement, des météores, disons, l'étoile filante, l'aube, la neige, le vent de sable, la lune, le soleil, la grêle, une petite rivière, etc., des fonctions sociales, guerriers, sorciers, chefs, clowns, ogres, fouetteurs, etc. Des plantes, le maïs, la moutarde, la courge, le piment rouge, le cactus. Des phénomènes aussi, de manière pris de façon très générale, la mort, la vie, la génération, la fertilité. Des qualités de personnes, moqueur, lubrique, ébouriffé, silencieux, vorace, compatissant, fouetteur, coureur, joueur, à large face, graisseux, à grandes oreilles, etc. Des artefacts aussi, le hochet, la houe, etc. Donc au fond, il n'y a pratiquement pas d'élément du monde qui ne soit associé à un Katsinam. De sorte que si on avait la totalité des 400 Katsinam, on aurait la totalité des qualités du cosmos Hopi. Je vais donner quelques exemples du rapport qu'il y a entre le katsina lorsqu'il est encore incarné dans un danseur et le katsina lorsque c'est une poupée. Et je vais prendre pour cela ce katsina qui est Wupamo katsina, le katsina longue bouche, qui est figuré ici dans un dessin que Fuchs a demandé aux Hopi eux-mêmes. Il a fait travailler, enfin, ça se passe au tout début du siècle. Il a demandé aux Hopi de dessiner les danseurs. Donc, le dessin sur la gauche, là, on reconnaît un koyemsi, c'est-à-dire un homme debout, et c'est donc celui-là qui est le Wupamo Katsina. Alors, celui-là, il est connu, pour voir un peu ce que c'est que ce paquet d'attributs que représente chacun des Katsina. Celui-là, il est connu sur les trois messas, donc dans l'ensemble du territoire Hopi. Il est lié au soleil, et plus exactement au Powamu, qui est une cérémonie d'initiation au mystère des Katsina qui se tient au début février, qui est la première grande cérémonie publique de février, après les cérémonies ésotériques du solstice d'hiver. C'est un garde, c'est donc une catégorie générique de Katsinam. C'est un type austère, hein, il est sérieux, et il supervise le travail des Katsinam dits fouetteurs, qui sont donc une autre catégorie de garde, à la fois dans les kivas, c'est-à-dire dans les lieux de culte souterrains, et lors des processions publiques. Et pour l'embêter, les koyemsim, qui sont les katsinam tête debout, hein, là, qui sont toujours compatissants pour les humains et qui sont portés à faire des niches, hein, des plaisanteries, le capture, l'attrape au lasso, et c'est donc la scène que l'on voit ici, et lui tire la ceinture, le pagne, la cape, le col de renard, comme pour le déshabiller, afin qu'il se retrouve nu comme les impétrants à l'initiation. Alors, sur un plan plus analytique, sa tête est liée au soleil, non à la personne du soleil, qui est personnifiée, parce que d'autres katsinam peuvent être les fils ou les neveux du soleil, mais aux cérémonies de régénération du soleil après le solstice d'hiver. Et de nombreux katsinam du type chef arbore en effet cette couronne rayonnante, hein, que l'on voit ici. Il y a des sortes de crantages tout autour qui définissent les rayons du soleil. La partie inférieure de son masque est noire et elle caractérise ses liens avec la violence, avec la mort et avec la guerre. Parce que tous les Katsinam gardes, comme les Hopi défunts, sont peints de noir du cou à la racine du nez. Enfin, la partie centrale oppose le jaune et le vert et indique l'origine de ce Katsina. Il vit au sud-ouest des Mesas, probablement dans les pics de San Francisco, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou à Palazzomo, c'est-à-dire Sunset Crater. Et le double trait noir qu'on voit ici, avec des points blancs, signifie qu'il aime la pluie et qu'il aime donc intercéder auprès des âmes afin qu'elles s'offrent sous forme de pluie. Enfin, la partie supérieure reprend la partie centrale en l'opposant. Enfin, la couronne de plumes de faucon et surtout d'aigle, c'est le ikwisi, c'est son souffle, c'est son âme, c'est sa respiration, c'est son véhicule. Donc ça, c'est la figuration du danseur, faite par des Hopi eux-mêmes. Ça, c'est la figuration de la poupée telle que Fuchs, dans un autre article, l'a dépeinte dans les collections, d'ailleurs, pas in situ, mais dans les collections de la Smithsonian Institution à Washington. On voit les traits, hein, très nettement définie que j'évoquais tout à l'heure. Puis ça, c'est la copie du musée du Quai Branly, peut-être que ça évoquera quelque chose à certains d'entre vous, qui est en fait complètement dépouillée de tous ses attributs, comme vous pouvez le voir, réduite donc à son minimum, et donc ne signifiant plus grand-chose par rapport aux danseurs et à la forme normale de la poupée. Je vais prendre un autre exemple qui est celui de, donc de, sur la droite, du Katsina Salako. Alors son nom c'est Sio Salako Katsina, le Katsina Salako Zuni, qui est ici le mâle, parce qu'il y a aussi une femelle. Alors ce n'est pas un Katsina Zuni, bien qu'il y en ait, mais c'est un Katsina Hopi. En revanche, il représente un personnage ou un esprit ou une divinité d'origine Zuni que l'on célèbre en juillet, avant Niman, dans le village de Sichomovi, sur la première Messa. Donc lui, il est très spécifiquement lié à un village. Ce village a été fondé par des Hopis, mêlés aux Zuni, et ce sont eux qui ont introduit des Katsinam Zuni. En Zuni, les Katsinam s'appellent Koko, dont ce fameux couple de géants Salako, dont on a vu une image tout à l'heure. Hein. Là, c'est la version femelle, et ça, c'est la version mâle. Ce sont des géants de 2 à 3 mètres de haut. La robe est un tissage de plumes d'aigle, qui utilise, donc ça c'est nettement figuré sur la poupée ici, hein, qui utilise une technique peu commune, puisque sur le métier, chaque plume est piquée, traversée, puis nouée à la chaîne de coton. Il est sous la garde du clan de l'ours, ce qui se remarque par un dessin de pattes d'ours sur le visage ici. Et c'est un Katsina très puissant et très dangereux. On le fête à Zuni en novembre, un mois avant le solstice. Voilà, donc, le dernier... C'est celui-là. C'est Coco Peleu. Et c'est un Coco Peleu féminin. Coco Peleu, ça signifie tout simplement mouche de la mort. Et ça désigne pour les Hopi un insecte non identifié qui a le pouvoir de tuer avec son rostre. Et donc le rostre, il est ici indiqué, on ne le voit pas très bien, mais c'est donc cette espèce d'appendice pointu à la place du nez. Et c'est une figure de la fécondité humaine extrêmement vénérée. Il y a des mâles et des femelles. Les coqpelum seraient sortis du cône volcanique de Sunset Crater, près de Flagstaff, lors de l'éruption de 1064. Donc leur origine est très spécifiquement datée. Lors des cérémonies publiques, pendant que les Katsinam principaux dansent sur la place, le Kokopele arrive avec des groupes de Katsinam mélangés, il cherche une victime et il fait mine de copuler avec les petits garçons qui observent la cérémonie. Le Kokopele, parce que c'est un Kokopele femelle ici, les Kokopele mâles font la même chose avec les petites filles. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde rit. Les Hopis combinent une obsession cérémonialiste avec une attitude assez libre et paillarde vis-à-vis de leur Katsinam. Tout le monde rit, sauf les grands-mères qui s'efforcent de soustraire leurs petits-enfants à l'action déplacée du Katsina. Alors, Patrick Pérez, qui est un spécialiste français des Hopis, un architecte qui a beaucoup écrit sur l'organisation spatiale, en particulier des Hopis, qui m'a beaucoup aidé pour les identifications de ces personnages, lui développe une théorie à ce sujet. Il pense qu'il s'agit en fait, si on compare ce personnage avec l'iconographie maya, il voit dans ce personnage une évocation des marchands mexicains qui parcouraient la région entre le 8e et le 15e siècle. Et on sait en effet, par des travaux récents, que les marchands mexicains amenaient du pays maya des perroquets, des plumes, des coquillages et des fèves de cacao. Et ces voyageurs de commerce, ces représentants de commerce riches et célibataires, étaient probablement accusés d'enlever les filles. Je pense que c'est une... Si non è vero, bene trovato, mais je pense qu'il est beaucoup plus vraisemblable de penser qu'il s'agit d'un insecte parasitaire qui pond ses œufs avec ce rostre effilé, qui est un rostre ovipositeur, dans le corps de ses victimes, où les larves se nourrissent de ces victimes. C'est une grande spécialité de Dimitri Karadimas, qui est ici présent. Et donc, je livre cette possibilité pour compléter sa collection de métaphores d'insectes parasitaires. Dernier personnage, dernier Katsina, mais je vais pas, il y en a tellement, c'est à chaque fois pour vous montrer la diversité de chacun d'entre eux. Celui-là, c'est Waka Katsina, Katsina des vaches. C'est donc évidemment pas un animal autochtone, et d'ailleurs, Waka est une déformation de l'espagnol Waka, et c'est une famille dont les membres se distinguent par la couleur et par certains motifs sur le visage. Alors celui-là, c'est un mâle bleu. Et la couleur bleue, ici, peut indiquer la provenance. Ce sont soit des vaches de Flagstaff, c'est-à-dire le principal élevage de la région, mais ça peut aussi désigner les jeunes mâles pleins de fougue, car le bleu est leur couleur. Les peintures corporelles sont typiques de la troisième messa en mai et en juin. La partie inférieure signale qu'il s'agit d'un tihou destiné aux petits-enfants qui mâchonnent encore et se font les dents, mais qui ne têtent plus. Et on peut dire des Waka Katsinam qui ce sont des êtres paisibles, doux, qui dansent lentement pour la pluie, afin que le bétail se nourrisse d'herbe, mais aussi pour la fertilité du bétail et des animaux domestiques en général, qui sont une allégorie de l'autosacrifice, qui est un thème très commun dans toute l'ère mésoaméricaine qui remonte, bien sûr, jusque-là, parce qu'ils donnent leur corps pour que d'autres mangent de la viande. Et un peu à la façon du consentement, si vous voulez, du bœuf dans le sacrifice grec, là, ils consentent aussi à alimenter les humains. Bref, il n'est pas un élément du monde dans toute sa singularité, enserré souvent dans une trame historique et biographique enchevêtrée, connecté par mille liens à des saisons, à des éléments, à des groupes sociaux, à des sites, à des couleurs, qui ne soient figurés comme une sorte d'essence condensée dans un katsina. On conçoit qu'avec d'autres termes du même type qui sont passés dans la langue courante, dans les langues européennes, comme mana, tabou, totem, etc., katsina ou katsina, et défier les tentatives de traduction. C'est pour ça qu'on continue à utiliser le terme autochtone. Car s'il s'agit bien à chaque fois d'une entité singularisée, avec sa conformation physique, son costume, ses attributs symboliques, son comportement, ses liens de parenté et d'affinité, son association avec tel et tel groupe social, cette entité est aussi, au fond, un paquet relativement abstrait de prédicats s'appliquant au monde. De sorte qu'en animant leur village pendant des mois avec des danses et des pantomimes peuplées de personnages sévères ou burlesques qui agissent en émissaires de la divinité, en déployant une énergie considérable, parce que vous imaginez bien que ces rituels-là demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour fabriquer ne serait-ce que les costumes et pour personnifier les katsinams. Donc en déployant une énergie considérable pour ponctuer leur vie quotidienne de ces visites attendues, en fabriquant des masques, des costumes, des poupées, des hochets, pour donner une densité théâtrale à leur présence, les hopis font plus que décliner les qualités du monde dans des images de diverses sortes. Ce n'est pas uniquement iconique. Ils contribuent à les actualiser dans un gigantesque réseau qui est presque coextensif au cosmos lui-même. Et bien qu'elle n'ait pas de dimension religieuse en elle-même, les poupées, kihu, rendent manifeste cette fonction de détermination expressive dont les katsinams sont investis, dans la mesure où, rangées sagement les unes à côté des autres, dans les maisons hopi et à présent dans les vitrines des musées, elles témoignent sans embâge de ce que les katsinams, dans leur immense diversité, possèdent néanmoins un air de famille qui les définit comme des variations d'un tout. Leur taille, leur couleur, leur style d'ornementation, jusqu'à la systématicité de leur bizarrerie, permet même à des néophytes de les identifier comme des membres d'une gigantesque famille. Il suffit d'en avoir vu trois ou quatre pour ensuite savoir immédiatement de quoi il s'agit lorsque vous en voyez une illustration. Donc la coalescence de leur diversité ne peut qu'évoquer une totalité dont ils sont les indices. Passons maintenant, dans le peu de temps qui nous reste, mais je poursuivrai bien sûr lors de la prochaine leçon, à une autre modalité, un troisième trait typique de la figuration analogiste, que sont les images de connexion entre le macrocosme et le microcosme. Une caractéristique centrale de la pensée analogiste est en effet de décliner de manière systématique la thématique des correspondances entre l'univers et la personne humaine vue comme un monde en miniature. C'est un moyen commode pour limiter, pour cadrer la prolifération des signes en concentrant leur principe de déchiffrement dans un être qu'on va distinguer entre tous, l'humain, qui se voit investi d'un privilège tout particulier qui est d'être le gabarit et le garant de la validité des interprétations. Quand à peu près tout événement, toute situation peuvent être compris comme un appel ou comme un message, quand du décodage correct de ces indices dépendent le bonheur ou le malheur, la santé ou la maladie, la gloire ou l'infortune, il est rassurant de se dire qu'il existe dans le corps et dans la nature de l'humain, dans ses organes, dans ses dispositions, un modèle interprétatif permettant de se repérer de façon, disons, mieux assurée dans le foisonnement des correspondances. Il est vrai que dans toutes les cultures, des analogies sont faites entre des parties du corps humain, des parties des plantes et des animaux et des éléments de l'environnement inorganique. Partout, on a imaginé que des cheminements explicatifs étaient possibles entre des cycles climatiques ou astronomiques et des fonctions ou des substances biologiques. En effet, le corps humain présente un répertoire si profus et si immédiatement disponible de particularités anatomiques et physiologiques que l'on voit mal comment on aurait pu ne point en faire usage. comme une source de métaphore pour qualifier autre chose que lui. Mais c'est dans les seules ontologies analogiques ou analogistes que ces correspondances ont été systématisées dans des corpus doctrinaux et mises en œuvre dans des procédures à la finalité pour l'essentiel pratique, lecture du destin, traitement des mots du corps et des mots de l'âme, orientation des édifices et des cités, décisions individuelles et collectives. Tout se relie, tout fait sens dans un tissu si dense de signes, se répondant les uns aux autres, qu'il est au fond impossible de dire si c'est le monde qui est taillé aux mesures de l'homme ou si c'est l'homme qui est une réverbération du monde. Nulle part ailleurs que dans l'archipel analogiste ne trouve-t-on des chaînes de causalité transitive aussi étendues et imbriquées. Nulle part ailleurs ne trouve-t-on des images, c'est notre propos, qui s'attachent de façon aussi obsessive à dessiner des liaisons entre propriétés du cosmos et propriétés de la vie humaine. Certes, il s'agit moins ici d'un mécanisme visuel à proprement parler, comme dans la figuration des êtres composites ou dans celle des réseaux, que d'un type de contenu. Mais ce type de contenu est si caractéristique qu'il finit par acquérir la force d'un schème canonique. Alors ce schème, il est relativement facile à identifier dans ses formes les plus simples. La plus élémentaire consiste à figurer directement sur un corps humain ou à relier ce corps humain par des lignes aux signes cosmiques qui font écho à telle ou telle de ses parties ou de ses dispositions. Alors ces signes peuvent renvoyer aux planètes, ils peuvent renvoyer à la voûte céleste, aux éléments, des accidents géographiques, à un axis mundi ou aux symboles du zodiaque. Ces derniers constituent, par exemple, un motif très commun, connu depuis l'Antiquité égyptienne, constamment repris, et qui voit associer les 12 signes du zodiaque à des parties du corps, depuis le bélier pour la tête jusqu'au poisson pour les pieds. Un exemple ici dans lequel l'association est diffuse, puisque on a, le personnage est au centre d'une mandorle, et c'est simplement par juxtaposition, projection dans l'espace que l'association est faite. Donc ça, c'est une mosaïque romaine, mais on a ici une image que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises, où on a à nouveau le thème de la mandorle, hein, avec les signes qui sont déclinés tout autour, mais là aussi, les signes sont ensuite associés spécifiquement à des parties du corps. Une dernière, enfin, qui est intéressante, parce qu'elle est tardive. Quand je dis tardive, on en trouve encore des contemporaines, hein, c'est pas d'une grande importance, mais elle est tardive en ce sens que... Mais elle date donc de la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Elle est d'Athanasius Kircher, ce n'est pas tout à fait surprenant. Et c'est simplement pour souligner cet effet de persistance, hein, des grandes catégories, des grands schèmes de la pensée analogiste, bien avant déjà dans la... alors que le naturalisme a commencé à s'établir. Cela, je l'ai déjà souligné, est intéressante puisqu'elle est dans les traits réussisseurs du duc de Berry, où on trouve également certaines des premières enluminures, pas les premières, en tout cas des enluminures des frères de Limbourg, qui me paraissent témoigner de façon absolument exemplaire des pivots fondamentaux de la figuration naturaliste, la figuration de l'intériorité distinctive des humains d'un côté et la figuration d'un espace réaliste de l'autre. Et en même temps, on trouve cela qui est une rémanence de l'analogisme. Alors, d'autres formes de correspondance entre macrocosme et microcosme mettent plutôt l'accent sur les connexions entre la figure humaine et les éléments, les planètes ou les points cardinaux. Et je vais en prendre un exemple qu'on appelle l'homme microcosme, et qui est intéressant parce que, au fond, cette idée qu'il existe des correspondances entre l'univers et l'homme ne reçoit pendant longtemps, au Moyen-Âge, que des représentations diagrammatiques et non pas iconiques. Par exemple, dans les œuvres encyclopédiques d'auteurs comme Isidore de Séville ou Bède le Vénérable. Et il faut attendre la seconde moitié du XIIe siècle pour que ces correspondances soient inscrites sur une représentation de la figure humaine dans un manuscrit du glossaire de Salomon de Constance, copié en 1165 dans l'important scriptorium du couvent de Prüfning, près de Ratisbonne, où on a copié énormément de manuscrits et fait beaucoup d'enluminures, et qui est actuellement conservé à la Staatsbibliothek de Munich. C'est une image aussi que j'ai présentée dans mon exposition. Alors quoi ? C'est une image donc d'un homme nu, entièrement exposé de face, à l'exception d'une pudique inscription sur le pubis, et qui connecte la terre et le ciel sur toute la hauteur de l'image. Des images de ce type ont été faites ensuite, notamment pour illustrer le Liber Divinorum Operum de Hildegard de Bingen. Celles-ci, par exemple, alors elles sont très belles, elles sont plus originales, si on peut dire, mais elles trouvent pour l'essentiel leur source, peut-être, en tout cas, dans l'image précédente. Comme le souligne Fritz Sachsel dans son classique Macrocosm and Microcosm in Medieval Pictures, aucune de ces images ultérieures n'a la puissance et la frontalité extrême de cette figure du corps humain. Les inscriptions qui sont portées sur l'image sont tirées de l'Elucidarium d'Honorius Augustodunensis. Et elle spécifie tout un ensemble de correspondances entre la figure de l'homme et des éléments du cosmos. La correspondance entre la rotondité de la tête et de la sphère céleste, correspondance entre les sept ouvertures du visage, la bouche, les narines, les oreilles et les yeux, et qui sont toutes donc figurées, et les sept planètes, correspondance entre les quatre éléments et les parties du corps, l'eau est ici, si mes souvenirs sont bons, la terre est ici, le feu est ici, et l'air est ici, et correspondance aussi entre ces quatre éléments et les cinq sens. Alors ici, c'est rajouté, donc on a ici des correspondances avec les éléments, et ici on a le toucher qui vient se rajouter aux deux sens du bas, aux deux éléments du bas, pardon, l'eau et la terre. Et ce dense maillage d'écriture enserre la figure humaine dans un réseau de lignes qui sont à la fois sémantiquement chargées et plastiquement efficace, qui rend d'emblée ostensible la réverbération des échos entre le microcosme et le macrocosme. Les droites, horizontales, verticales, diagonales, les courbes, les cercles, prolongent et amplifient le corps humain et le rendent en quelque sorte homologue à l'ordre plus englobant dont il dépend. Ainsi, le cercle qui entoure la tête n'est pas qu'un bandeau circulaire destiné à recevoir l'énoncé d'une correspondance entre la sphère céleste avec la sphère céleste. C'est une façon de donner à voir cette correspondance dans son immédiateté. Il faut noter aussi que, comme le souligne Jérôme Bachet dans un commentaire qu'il fait de cette image, les correspondances ne concernent pas la totalité de la personne humaine, mais seulement le corps. Comme l'écrit Adalbold d'Utrecht dans son Ars Musica, « Forma vit animam ad imaginem deitatis, sed corpus ad imaginem universitatis ». Dieu a formé l'âme à l'image de la divinité, mais le corps, son corps, à l'image de l'univers. Donc c'est là un contraste avec les conceptions antiques de l'atopique macrocosme-microcosme, dans lesquelles l'âme est en correspondance avec le macrocosme. Autre point important que le même Adalbert d'Utrecht a souligné, Dieu a usé des mêmes nombres pour créer les deux mondes, le petit et l'homme, et le grand, l'univers. De sorte que la connexion entre l'un et l'autre relève d'un rapport de proportionnalité mathématique et d'une consonance musicale, les mêmes rapports musicaux sous-tendant la nature de l'univers et celle du corps humain. Au demeurant, Boès voyait déjà dans l'harmonie musicale la seule force capable de conjoindre en un même corps les différences et les pouvoirs contraires des quatre éléments. Une conjonction rendue sensible dans cette image avec beaucoup d'ingéniosité. Dernier point enfin, la ressemblance de la figure de l'homme microcosme avec, c'est très net, la représentation traditionnelle du Christ. Elle est manifestement délibérée et elle vise à dépeindre un archétype de l'homme représenté sous la forme de sa plus haute dignité, celle que le Christ a assumée par son incarnation. Et la connotation christique est ici un référent obligé et attendu dès lors qu'une image de type normatif comme celle-ci, puisqu'elle énonce un système de correspondance entre deux échelles de l'univers, entend figurer, au fond, la perfection humaine. Donc l'homme microcosme, c'est aussi l'homme dans son degré le plus élevé d'accomplissement corporel, tel que Dieu fait chair en offre le modèle. Alors, ce schème dans lequel la figure humaine sert de support ou de point de départ à des symboles qui se réfèrent à d'autres dimensions du cosmos est en réalité très commun dans tout l'archipel analogiste, alors qu'il ne s'en trouve guère de traces dans les figurations animiques ou dans les figurations totémiques. Il est très caractéristique, par exemple, de certaines images du bouddhisme tantrique en Inde et au Tibet, qui s'attache à représenter le corps subtil, comme celui-ci par exemple. Comme vous savez, selon la tradition tantrique, le corps subtil forme dans le corps humain un réseau invisible en flux permanent qui est formé de milliers de canaux où circulent des souffles de l'énergie. Et le réseau est structuré par des points d'intersection, les chakras, qui sont des centres de distribution de l'énergie dans les différentes parties du corps, de sorte que l'hygiène de vie et la médecine traditionnelle visent à faire circuler librement l'énergie dans le corps subtil et entre celui-ci et le cosmos. Encore une autre image qui est tout à fait aussi caractéristique de cette tradition. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui, juste pour souligner que ça, c'est l'un des côtés de la figuration du rapport entre macrocosme et microcosme. C'est celle où on figure des éléments du macrocosme présents dans le microcosme, dans le corps humain. Évidemment, l'autre face, celle que j'examinerai lors de la prochaine leçon, c'est celle où on va présenter le macrocosme, c'est-à-dire des cosmogrammes dans lesquels des formes de présence soit du corps humain, soit de la personne humaine, soit de ses expériences, sont présents. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.